demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 20 mai. Nous parlerons de la réouverture du commissariat du 2e arrondissement. La préfecture du Rhône multiplie les expulsions des délinquants bénéficiant de logements sociaux. 6 mois de prison avec sursis pour un individu qui avait proféré des menaces de mort à l'encontre du maire de Lyon, Grégory Doucet, et de son adjoint Mohamed Chihi. 2024 se classe parmi les années les plus arrosées à la station météo de Bron, quelques chiffres dans cette édition. La tournée du climat et de la biodiversité fait escale à Lyon en fin de semaine. Notre invitée s'appelle Léa Caudron-Fournier. Elle a créé la Canopée Fleurie. Elle nous expliquera sa passion, devenue son métier, en l'occurrence la couture.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. 3,5 millions d'euros, c'est le coût des travaux engagés par l'État pour rénover le commissariat du 2e arrondissement. Après 2 ans de fermeture, le service de police est de retour dans le bâtiment de la rue de la Charité. Rénovation intérieure, extérieure et énergétique de grande ampleur. Accueil du public du lundi au vendredi de 8h à 18h. En fin de journée, le public sera réorienté vers le commissariat le plus proche, à savoir celui du 1er arrondissement, ouvert lui 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La préfecture du Rhône multiplie les expulsions de délinquants bénéficiant de logements sociaux. 33 délinquants ont ainsi été expulsés de leurs logements sociaux depuis janvier à la suite de procédures initiées par les bailleurs sociaux. Les principaux motifs, vente de stupéfiants, violence ou encore condamnation dans le cadre des émeutes de l'été dernier, une femme défavorablement connue des services de police a été mise à la porte de son appartement la semaine dernière après une multitude de troubles signalés par le voisinage, agression physique sur locataire de la résidence, maltraitance animale, déversement également d'une bassine d'huile dans les parties communes. Une peine d'avertissement de 6 mois de prison avec sursis simple, c'est la peine dont a écopé un individu qui avait proféré des menaces de mort à l'encontre du maire de Lyon, Grégory Doucet, et de son adjoint Mohamed Chihi, le 25 septembre 2022. Il a été condamné à verser 1 € symbolique aux deux victimes qui se sont constituées partie civile. Les deux élus n'avaient pas demandé davantage en termes de réparation de leur préjudice moral. Le prévenu, sans casier judiciaire, avait envoyé des menaces par écrit à la ville de Lyon en utilisant un pseudonyme via Messenger. Le caractère raciste de son délit a été retenu également par le tribunal de Lyon. L'auteur des écrits avait manqué de vigilance. Certes, il agissait avec un pseudo, mais il avait créé son profil Facebook avec son propre numéro de téléphone.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Des précipitations d'une ampleur rarement observée depuis le début des années 80 à Lyon. 2024 se classe désormais parmi les années les plus arrosées à la station météo de Bron avec 369,4 mm d'eau cumulée sur les 4 premiers mois de l'année. Le 26 mars, jour le plus pluvieux, près de 33 mm d'eau sont tombés sur le secteur. Cet événement n'avait pas été observé depuis 1991. Pour les climatologues, la pluviométrie record de ce printemps 2024 dans le Rhône est une des conséquences du réchauffement climatique. Vous voulez en savoir plus justement sur le climat? Bien sachez que la tournée du climat et de la biodiversité fait escale à Lyon les 23 et 24 mai, jeudi et vendredi, à l'Hôtel de Ville. Une exposition conçue par des scientifiques, mais aussi des animations gratuites partout en ville. L'expo aborde les enjeux environnementaux, parmi lesquels les mécanismes du climat, le rôle des humains sur les évolutions en cours et à venir et leurs conséquences dans le monde, ou encore les actions possibles pour limiter la portée de ces changements. Un ciné-débat est notamment programmé le 23 mai à 20h30 au cinéma Lumière au Terreau, en présence de Marc-André Sellos, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Un atelier didactique pour agir en faveur des pollinisateurs aura lieu le 24 mai de 14h à 17h au tiers-lieu Truffaut sur les pentes de la Croix-Rousse. Les visiteurs découvriront notamment des astuces pour organiser leur jardin et favoriser les pollinisateurs. 2 animations également au bar du TGV. Tout le programme se trouve sur le site internet tourneclimatbiodiversité.fr.
Lyon demain, créateur d'envie.
Connaissez-vous la canopée fleurie? Rien à voir avec un quelconque projet de végétalisation de la ville, même si les fleurs sont bien présentes, mais sur des tissus. Diplômée de l'INSA à Villeurbanne en 2016 en génie, énergie et environnement, Léa a travaillé 6 ans dans un bureau d'études en conception environnementale du bâtiment, avant de se lancer dans le projet fou de faire de sa passion, la couture, son métier. Léa Caudron-Fournier a créé la canopée fleurie. Elle nous explique sa passion, devenue son métier. travailler.
Alors j'ai trois activités principales. La première, c'est la création d'accessoires textiles. Donc c'est ce que je présente sur les marchés. C'est beaucoup de sacs bananes, des trousses, des petits porte-cartes, etc. Qui sont faits en grande partie avec des tissus revalorisés. Donc des chutes de projet ou des choses que j'ai pu trouver chez Emmaüs, des vieux rideaux, des vieilles nappes, etc. Donc voilà, ça c'est mes produits. En parallèle, je suis en train de développer des patrons de vêtements. Donc c'est un peu la 2D d'un vêtement et pour des gens qui voudraient faire de la couture, qui partent de ça et puis qui font leurs propres vêtements avec. Et ma troisième activité, c'est de donner des cours de couture du coup sur Villeurbanne, au gratte-ciel. Et à la fois découvrir un savoir-faire manuel, mais aussi ça permet, comme je te disais, de sensibiliser les gens sur qu'est-ce que c'est de produire soi-même et du coup de réfléchir derrière quand on achète un vêtement à 10 euros, quand est-ce que c'est possible quoi, quand on a conscience maintenant qu'un vêtement ça peut être 10 heures de travail. Qu'est-ce que ça veut dire pour la personne qui l'a produit derrière, voilà.
Ces tissus que tu récupères, c'est quel type de tissu par exemple?
Beaucoup de choses, moi j'adore ce qui est fleuri, donc c'est beaucoup souvent des vieux rideaux, et justement c'est ça que j'aime bien, tous ces textiles qui ont eu une vie, une époque, qui ont vécu chez des gens, et qui aujourd'hui correspondent plus du tout à l'esthétisme dans une maison. Et du coup l'avantage c'est que sur des accessoires, sur des petites choses, ça peut ramener au contraire le côté fleuri, c'est hyper sympa, c'est plus petit, sur un vêtement uni ça peut ramener plein de couleurs, et du coup c'est des tissus qui on leur offre une nouvelle vie, une nouvelle existence. Ça aussi, des vieilles nappes aussi, j'aime bien, bon, faut faire attention parce que des fois il y a des vieilles taches de nourriture, donc faut faire un peu le tri, mais voilà, c'est ça. Et puis sinon c'est des chutes de projet aussi, des gens qui ont pu bosser sur des choses et puis qui en fait se retrouvent avec un petit bout de tissu, ils vont rien en faire et du coup ils me le donnent et moi j'arrive à créer des choses avec. Et du coup avec ça aussi je fais des personnalisations, donc des gens qui ont des tissus chez eux qu'ils ont depuis longtemps, parfois qu'ils ont récupéré de leur grand-mère, etc. Et du coup je le récupère puis je peux leur faire un sac banane ou autre chose avec.
Et tu optimises vraiment la récupération parce que il y a des gros articles et puis il y a des articles qui sont très petits pour les petites chutes, c'est ça?
C'est ça, ouais. Alors j'ai même des choses encore plus grandes où moi je me fais des vêtements dedans. Donc justement les rideaux, des fois il y a assez, ou des vieux draps, parce que des fois c'est un coton un peu usé qui est assez agréable à porter, assez léger. Et effectivement du coup les sacs bananes, ça me demande une certaine quantité de tissu. Mais là un peu mes articles les plus petits, c'est les marque-pages et les cotons démaquillants, où dans un petit carré de disons 5 cm sur 5 cm j'arrive encore à recréer quelque chose. Et après tout ce qui est vraiment trop petit, c'est du rembourrage pour des coussins, des peluches, des choses comme ça. Voilà, c'est essayer de faire du 100% récupération.
Côté prix, c'est un peu difficile d'être en concurrence avec ce qui se vend aujourd'hui sur le commerce, sur le marché.
Ah oui, c'est sûr. Sur les sacs bananes, qui est un produit qui marche bien depuis ces dernières années, des anciennes comme Uniqlo peuvent proposer des produits vraiment pas chers. Moi, mon entrée de gamme, elle est à 30 euros. La plus chère, elle est à 60 euros. Faut savoir du coup que c'est des produits artisanaux en série. En modèle unique, voire série hyper limitée, parce que en fonction du tissu que j'ai au départ, il y en a, c'est des vieilles vestes. Dans la veste, j'essaye de récupérer ce que je peux. Et c'est, en soi, c'est vraiment pas cher par rapport à ce que c'est. Mais c'est aussi, moi, j'ai envie d'avoir des choses qui restent accessibles à tous. Donc, ça reste des produits créateurs, ça reste des produits faits main quasiment uniques. Donc, c'est sûr que ça a un certain prix pour que moi aussi, derrière, je puisse arriver à en vivre. Mais ça reste des produits, je pense, accessibles. Et puis, c'est une démarche derrière aussi d'acheter ce type de produit par rapport justement à Uniqlo. La banane, ce que je disais tout à l'heure, si elle coûte 15 euros, qui l'a produit, à quel coût, dans quelles conditions, voilà.
Parce que ta volonté, c'est effectivement d'avoir un message pédagogique, parce qu'on sait que le textile, c'est quand même un secteur des plus polluants aujourd'hui dans le monde.
Ouais, tout à fait. C'est, je dirais, les deux valeurs un peu de mon entreprise. C'est l'engagement, donc sur le côté environnemental, la récupération, etc. Et tout ce qui est pédagogie derrière, découvrir les savoir-faire manuels et voilà, se rendre compte de ce que ça représente comme temps. Et puis pourquoi pas susciter des vocations. mais voilà, et derrière les ateliers couture. Moi j'adore, et c'est aussi ça que j'adore, c'est qu'il y a ce côté là, on a produit quelque chose soi-même et la joie de repartir avec quelque chose qu'on a fait soi-même est hyper communicative, et à chaque fois les gens repartent, même si c'est juste un petit sachet pour faire ses courses zéro déchet, pour peser ses légumes dedans, les gens ont un contentement après à utiliser ça, qui je trouve est au-delà du petit sachet à 50 centimes qu'on pourrait trouver quelque chose quelque part quoi.
Et pour cela tu donnes des cours, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Des cours, du coup, j'ai différents modules, soit des cours ponctuels, soit des engagements, soit avec des forfaits sur plusieurs sessions. Et du coup, moi, je propose des choses à créer, des petits accessoires. Par exemple, pour les débutants, je propose de faire les petits marque-pages. Après, sur une session plus longue, on peut faire un projet un peu plus compliqué. En ce moment, sur plusieurs sessions, j'ai une maman et sa fille qui se fabriquent des poufs pour la chambre de sa fille. Et du coup, en fonction des projets, on discute, on voit ce qui vous plaît, combien de temps ça prendrait, et puis on planifie ça ensemble. Et après, ça peut être des petits ateliers ponctuels où on fait juste un petit marque-page, ou à contrario, je fais un format avec 8 sessions d'une heure et demie, où l'idée c'est d'arriver jusqu'à un vêtement à la fin. Donc on découle les bases, on voit un peu le patronage aussi. Donc le patronage, c'est l'idée de créer le 2D de son objet en 3D. Du coup, quelles sont les règles un peu pour créer son accessoire? Par exemple, le sac banane, qu'est-ce qu'on veut faire des différentes tailles, comment on s'y prend, comment je change quand je récupère un patron de quelque chose, si je veux l'adapter, que je veux faire une taille différente. Donc on voit un peu ça, et puis après on ouvre des patrons, on lit comment ça se lit, parce qu'un vêtement, par rapport à un accessoire, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de pièces différentes. Et donc voilà, on apprend le montage petit à petit.
Pour retrouver la canopée fleurie, c'est où?
Alors j'ai un site qui est la canopée fleurie, tout attaché, sans point, sans tiret. Et sinon, je suis sur Instagram où je suis beaucoup plus présente. Mon Instagram, c'est -lcf.-. Si vous tapez la canopée fleurie, vous tomberez dessus. Et puis sinon, j'essaye de faire une newsletter tous les mois où du coup, ça permet d'avoir un format un peu plus long, un peu plus complet, où je propose soit des offres, soit un récap aussi de ce que je fais, où j'en suis dans mes projets. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur la newsletter. Ça me ferait très plaisir.
Léa Caudron-Fournier, créatrice de la canopée fleurie. Un job café aura lieu le mardi 28 mai, donc dans 8 jours, dans les agences O2, leader français du secteur des services à la personne. Il est proposé aux candidats de rencontrer les équipes O2 locales dans un cadre convivial et décontracté, sans CV ni lettre de motivation. Objectif: favoriser des rencontres autour d'un café sans diplôme, expérience ou formalité stressante. Les intervenants O2 seront présents pour expliquer leur quotidien chez les clients et partager leur expérience avec les futurs employés. Le relationnel et la curiosité sont les principales qualités recherchées, et cela ne demande pas forcément de diplôme. Allez, sport en Ligue 1, en inscrivant le pénalty de la gagne à la 95e minute face à Strasbourg, victoire de l'OL 2-1. La Casette envoie son club en Europe grâce au nul de Lens face à Montpellier. Les Gones empochent la 6e place et se qualifient directement pour la phase de groupe de Ligue Europa. Après 2 saisons d'abstinence, l'Olympique Lyonnais retrouve donc un championnat européen. L'OL était pourtant bien mal parti et était donné relégable en début de saison. L'OL féminin a fêté son titre de championne après avoir battu le PSG en finale. Les Lyonnaises sont à présent focalisées sur la finale de la Ligue des Champions, programmée samedi prochain. Elles ont rendez-vous avec le Barça à Bilbao. Malgré une saison très difficile, l'ASVEL s'est qualifié ce dimanche à Saint-Quentin pour sa 6e demi-finale en championnat en 8 éditions et 4 titres depuis l'arrivée de Tony Parker à la présidence en 2014. Distancée de 20 points à la fin du 3e quart-temps, l'équipe villeurbanaise, qui n'a jamais mené dans le temps réglementaire, a arraché sa qualification en prolongation. Elle affrontera Paris ou Cholet à partir de jeudi. Le top 14 verra encore évoluer le Loup la saison prochaine. Les Lyonnais l'ont emporté face au Racing ce samedi, s'assurant le maintien à 2 journées de la fin du championnat. Le Loup s'est imposé face au Racing 20-14. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour la prochaine édition. Excellente journée à l'écoute de nos programmes.